Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 14. Mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Jean-Philippe, qui va nous aider à mieux comprendre le message qu'il contient. Jean-Philippe, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Jean-Philippe, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous parler du contexte de ce chapitre 14 dans le récit de l'Évangile de Marc?
Oui, ce chapitre commence avec la fête juive de la Pâque que Jésus et ses disciples célèbrent ensemble. Puis les événements vont se précipiter vers la crucifixion de Jésus. Mais tout d'abord, Jésus conduit ses disciples dans le jardin de Gethsémané. Là, il prie, agonisant devant la douleur du sacrifice qu'il est sur le point d'offrir pour sauver l'humanité. La dernière fois, nous avons lu le récit de son arrestation. Des chefs religieux, accompagnés de Judas et de gardes armés, viennent s'emparer de Jésus pour l'emmener devant un tribunal. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qui s'est passé ensuite. Cédons la parole à Sandra pour la lecture de Marc, chapitre 14, versets 53 à 65.
Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. Pierre l'avait suivi à distance jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre. Il était assis avec les gardes près du feu pour se réchauffer. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas, car il y avait beaucoup de gens pour apporter de faux témoignages contre lui. Mais ces témoignages ne concordaient pas. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, je démolirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en reconstruirai un autre qui ne sera pas fait par des mains humaines. » Mais même là-dessus, leur déposition ne s'accordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus. « Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui répondit « Oui, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en concluez-vous ? » Tous alors le condamnèrent en le déclarant passible de mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Ils lui recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant « Hé, fais le prophète, qui sait ?» Les gardes saisirent Jésus et lui donnèrent des gifles.
Merci Sandra. La dernière fois, nous avons réfléchi sur l'arrestation de Jésus. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'il a été conduit devant un genre de tribunal religieux.
Oui, les chefs religieux voulaient se débarrasser de Jésus. Et de ce fait, ils ont cherché à le rendre coupable de crimes religieux, en l'occurrence de blasphème.
Mais cette tâche est devenue difficile, me semble-t-il.
C'est exact, Yann. Ils ont fait appel à de prétendus témoins, à des personnes qui étaient prêtes à porter de faux témoignages. Toutefois, même ces témoignages ne s'accordaient pas.
Donc l'élite religieuse a recours à des méthodes injustes pour essayer de prouver la culpabilité d'une personne qui est tout à fait innocente.
Oui, ces chefs religieux désobéissent au 9e commandement qui justement interdit le faux témoignage, que ce soit devant les cours de justice, comme en toutes circonstances de la vie.
Quel hypocrite! Ces chefs ont en apparence été très attachés à la loi et aux traditions. Les pharisiens avaient même ajouté beaucoup d'autres règlements pour soi-disant garantir la pureté rituelle.
C'est exact, Yann. Et avant de réfléchir davantage sur la conduite de Jésus, je voudrais en tirer deux leçons importantes.
Je vous en prie, quelle est la première ?
Simplement un rappel de l'importance de ce 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tout système de justice doit reposer sur la confiance, l'intégrité et l'honnêteté. Ce commandement vise donc à protéger la justice humaine. Il vise à protéger la réputation de notre prochain. Malheureusement, encore de nos jours, trop de personnes ont recours aux mensonges et aux faux témoignages pour manipuler la justice en leur faveur ou pour priver quelqu'un de justice. Les prophètes de l'Ancien Testament dénoncent le non-respect du 9e commandement. Ils qualifient cette pratique comme étant grandement injuste et ils déclarent que ceux qui la pratiquent s'exposent à la justice divine et au jugement de Dieu. Dans toutes nos affaires, nous devons rester intègres et honnêtes, dire ce qui est vrai. Dans la mesure du possible, nous devons encourager l'intégrité dans nos institutions et dans nos administrations afin qu'elles puissent répondre de façon juste aux besoins de tous.
En effet, Jean-Philippe, il est injuste que les innocents souffrent à cause des faux témoignages de ceux qui désirent protéger leurs intérêts ou positions avantageuses. Mais quelle est la deuxième leçon que vous vouliez souligner ?
C'est le danger de l'hypocrisie. Le danger de voir le mal chez les autres, de le dénoncer, le juger, le condamner, alors que dans nos propres vies, nous pratiquons le mal autant que les autres. Jésus le déclare au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné, car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans le tien ? Hypocrite ! Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Les chefs religieux veulent condamner Jésus. Et afin d'arriver à leur fin, ils recherchent les faux témoignages. Ils acceptent le mensonge, l'injustice et même la violence. Il est dans la nature humaine de tolérer le mal quand cela nous convient, quand il s'agit de satisfaire nos désirs. Toutefois, nous ne le tolérons pas chez les autres. Jésus appelle cela l'hypocrisie. Jésus nous encourage à nous préoccuper d'abord et surtout du mal qui réside dans nos propres cœurs, avant même de regarder le mal que les autres commettent.
Merci. Revenons alors à Jésus qui, dans un premier temps, ne répond pas aux accusations lancées contre lui. Il reste silencieux devant l'injustice et les faux témoignages.
Oui. Matthieu insiste sur ce point car il veut nous prouver que Jésus est bel et bien le roi serviteur promis par les prophètes. La conduite de Jésus devant ce tribunal corrompu vient accomplir la prophétie trouvée en Ésaïe chapitre 53. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot.
Il est clair que le silence de Jésus devant les faux témoins représente une réalisation de cette prophétie. Mais pourquoi Jésus était-il resté muet en écoutant les faux témoignages ? Pourquoi ne s'est-il pas défendu ?
Le texte ne nous le dit pas. Je propose deux raisons possibles. D'abord, Jésus sait que ses accusateurs sont déterminés et que quoi qu'ils répondent, ses chefs n'abandonneront jamais leur désir de le crucifier. Ensuite, Jésus sait que les événements qui se déroulent ainsi font partie de la volonté de Dieu. Et qu'en les acceptant, il sauvera une multitude de personnes. Jésus est déterminé. Il ne cherche pas à échapper à son destin. Il veut vivre pleinement son amour pour l'humanité. Et de ce fait, il endure silencieusement l'injustice et l'humiliation. Jésus accepte de tout endurer. D'ailleurs, le prophète Ésaïe le déclare. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui.
Merci pour ce rappel. Mais plus tard, quand le grand prêtre lui demande s'il est le Messie, est le Fils de Dieu. Jésus répond avec des paroles qui le condamneront.
Oui, et Jésus sait d'avance que ces paroles le condamneront. Il sait d'avance que les chefs religieux ne reconnaîtront pas qu'il est le Messie, le roi sauveur promis par les prophètes. En fait, quiconque prétend être le Messie blasphème. Toutefois, Jésus dit vrai. À travers ses guérisons et ses signes miraculeux, il donne maintes preuves qu'il est le Messie. Bientôt, une dernière preuve irréfutable va se mettre en place. Après sa crucifixion, Dieu le ressuscitera d'entre les morts.
Et Jésus déclare, « Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. » Que signifient ces paroles ?
Il s'agit d'une citation du prophète Daniel. Jésus affirme être la personne dont le prophète parle. Le Fils de l'homme, selon le prophète Daniel, est un personnage extraordinaire. Il apparaît à la fois divin et humain. Il est le souverain sur l'univers. On doit l'honorer par-dessus toute autre personne. Il est glorieux. Jésus se trouve en position de faiblesse devant ses accusateurs. Il est vulnérable et humilié. Mais il affirme qu'en réalité, il est le Fils de l'homme dont parle Daniel et qu'il reviendra dans sa gloire pour assumer sa position d'autorité et de gloire, pour exercer son règne bienveillant et pour instaurer sa justice divine fondée sur le droit, l'intégrité et la vérité. Bien sûr, les chefs religieux ne voulaient pas croire à cela et ils ont trouvé en ses paroles un prétexte pour le condamner. Cependant, bientôt la résurrection va prouver qu'ils avaient tort.
Merci Jean-Philippe, mais comment voulez-vous conclure notre discussion ?
Ce récit nous confronte à un choix. Nous avons une décision à prendre. Qui est Jésus ? Il faut se décider. Était-il, comme le pensaient les chefs religieux de son époque, un blasphémateur ? Ou bien était-il vraiment le Messie, le Fils de l'homme ? Était-il le Seigneur de l'univers et le Sauveur de l'humanité ? Tout au long de nos études dans l'Évangile de Marc, nous avons essayé de vous persuader que Jésus est effectivement le roi sauveur. Nous vous invitons une fois de plus à mettre votre confiance en lui pour recevoir son salut, car tous ceux et celles qui se repentent de leurs péchés entreront dans son règne bienveillant. Ils recevront grâce et miséricorde. Ils seront à l'abri de son jugement le jour où il reviendra dans sa gloire.
Merci Jean-Philippe pour cette exhortation importante. Nous vous encourageons, chers amis, à réfléchir sérieusement à la véritable identité de Jésus. Votre décision est de la plus haute importance.
Jean-Philippe sera de retour la prochaine fois pour poursuivre notre étude Marc chapitre 14. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.